Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Welcome back.
I hit you with my car.
What?
I know.
What is this?
That's my little assistant health monitor.
Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal.
I'm supposed to be leaving.
I don't know if that's gonna happen.
You will walk many miles. Dozens will become hundreds. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years.
Et c'est parti pour le gros morceau de la semaine. J'espère que vous êtes tous bien installés parce qu'on en a pour 3 heures. C'est Bo is Afraid de Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Patti LuPone, Nathan Lane, Amy Ryan et d'autres. Et Denis Ménochet.
Bah, il est descendu de sa montagne.
Incroyable. Denis Ménochet, alors moi pendant tout le film, pendant toute la séquence où il apparaît, j'ai commencé à regarder, je me suis dit putain c'est Denis Ménochet je crois. Après à un moment donné il s'est rasé la barbe, je me suis dit ah non c'est pas Denis Ménochet. Après il a continué à apparaître, je me suis dit putain c'est sûr c'est Denis Ménochet. C'était vraiment, c'était pendant tout le milieu du film, je pensais à ça. Donc ça m'a un peu sorti du truc.
C'est lui.
Et c'est bien Denis Ménochet.
Et ben, bravo.
Quel plaisir. Voilà, bon, Nam va essayer de nous le résumer.
Ouais.
Alors, d'abord, on va faire un disclaimer. Je pense que si vous n'avez pas vu Bo is Afraid, vous ne devriez pas écouter ce segment tout de suite. Vous devriez aller le voir d'abord et ensuite le regarder parce qu'on va spoiler dans toutes les directions,
oh oui,
comme est notre habitude.
Parce que ça va être très compliqué de parler du film sans en parler, donc voilà. Alors, le film, le déroulé du film, c'est en gros 4 grosses séquences, si je dis pas de bêtises. La première, donc, c'est Joaquin Phoenix, Bo, qui vit chez lui, dans une...
C'est marrant parce que quand tu le dis, je crois qu'on dirait que tu dis que Joaquin Phoenix est beau dans la première séance. Et puis après, Joaquin Phoenix moche.
Après, on a Joaquin Phoenix qui est moche. Joaquin Phoenix mal rasé le matin. Non, donc, Bo vit dans une ville urbaine, on sait pas trop où. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la putain d'apocalypse dehors. Vous savez, tous ces délires des fois de ce que les gens peuvent imaginer de ce qu'est la pauvreté, dans ce qu'il y a de plus extrême, les comportements les plus horribles, c'est ça en pire, c'est Orange Mécanique, la rue chez lui, à quel point que la première fois qu'il rentre chez lui, il trace, il est en train de se taper un sprint comme personne, enfin attends, c'est en fait pour sauver ta vie, tu vois, et t'as un type qui vient et qui essaye de rentrer et tout, enfin un truc assez... très anxiogène, et donc c'est quelqu'un qui vit seul dans cet appartement qui, bah, autour de lui c'est très dangereux, même dans son couloir les gens qui croisent ils sont pas rassurants, même la nuit il est menacé parce qu'il y a quelqu'un qui lui demande de baisser la musique alors que c'est pas lui qui met la musique, et donc en fait lui il doit aller rendre visite à sa mère. Il s'avère ah oui, non, il commence par une séance chez le psy aussi, bref. On reviendra
non,
dessus.
Non, mais bon,
c'est pas grave.
On a dit résumé.
On a dit résumé.
Parce que ça ça dure 3 heures quand même.
Il s'avère que, en fait, bah, au moment de partir pour aller rejoindre sa mère, on lui vole sa valise et ses clés. Du coup, il peut pas partir parce que bah, quelqu'un pique les clés de chez toi et bah, t'es obligé de rester au moins pour l'arrivée d'un serrurier, machin, changer les serrures. Sa mère le croit pas. Comme une mère sait très bien le faire d'ailleurs. Et
alors c'est, on va, si nos mamans écoutent l'émission, peut-être que c'est l'épisode à sauter.
Désolé. Mais donc du coup, il s'avère que comment, il a des médicaments. Donc il a besoin de boire de l'eau et l'eau est coupée. Du coup, il sort dehors pour aller acheter de l'eau. Sauf qu'il a pas ses clés. Du coup, la rue rentre chez lui, littéralement. C'est-à-dire que toute la violence, tous les gens bizarres qu'il y a dans la rue, il n'y a plus personne dans la rue, ils sont chez lui. C'est horrible. Et il se fait renverser par une voiture. Bon, je saute des passages. Il se fait renverser par une voiture.
Vraiment, saute des passages.
Oui. et il se fait recueillir par un couple de gens.
T'as oublié le détail le plus important. C'est qu'il reçoit un coup de fil.
Oui, sa mère meurt.
Que sa mère est morte. Y a
ça, quoi, c'est quand il se réveille, non?
Il y a un lustre. Non, il le sait avant.
Sa mère meurt, il apprend ça dans son appart, et donc il part pour aller
ça.
chez sa mère, parce que sa mère, il se fait percuter par une voiture.
Il se fait percuter par une voiture, il se fait couper par un couple très gentil, qui est défini par le fait qu'ils ont perdu leur fils, et c'est très chelou. Et tout le monde semble très mal le vivre, mais ça a l'air d'aller. En fait, pas du tout, il va s'enfuir de là. Il va se retrouver dans une espèce de monde altermondialiste hippie dans la forêt. Oui, je voilà. Et avant d'enfin arriver chez sa mère, le
c'est une odyssée.
Voilà.
Toujours été voilà. En gros, c'est il est sur le chemin pour retrouver.
C'est une odyssée. Voilà. L'enterrement
de sa mère et puis va traverser divers environnements.
C'est ça.
C'est vraiment un film de voyage. C'est un petit côté Gulliver.
On suit un personnage qui a des grosses couilles.
Ouais, c'est.
C'est canon, hein, c'est canon. C'est canon.
Ouais. Moi, c'est vraiment un passage un angle du film qui m'a pas du tout intéressé.
les grosses couilles de Beau.
Tout l'angle phallique ne m'a intéressé à absolument 0%. Je trouve que c'était vraiment pas intéressant. Mais alors, est-ce que le reste était intéressant, Justin?
Oui, très intéressant. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que dès le départ, même avant qu'on lui annonce la mort de sa mère, c'est-à-dire tout le contexte, toute sa vision du monde, on le comprendra à la fin, mais altéré par l'éducation qu'il a reçue de sa mère particulière. Et puis même le fait que tous les obstacles qui se posent au départ, avant qu'on lui annonce la mort de sa mère, mais les obstacles qui se posent pour qu'il y aille, on a l'impression que c'est du déni. En tout cas, c'est on ne sait même pas si c'est de vrais obstacles ou si c'est des choses qui s'imposent pour ne pas y aller, parce qu'on sent bien qu'il n'a aucune envie d'y aller. Il n'a pas aucune envie de la retrouver. Et en fait, c'est le film est sur ça, c'est sur cette relation toxique avec cette mère. Donc le fait qu'elle soit morte, ça l'oblige à finalement faire ce voyage alors qu'il s'était inventé divers prétextes, toutes les histoires de clés et autres. On a l'impression que c'est... Il provoque ces situations-là pour ne pas avoir à faire ce voyage. Et une fois qu'elle est morte, il est un peu dans l'obligation, mais toutes les étapes du voyage lui font comprendre ce rapport qu'il a avec sa mère. la vision du monde biaisée, c'est le rapport aux autres un peu étrange qu'il peut avoir, ou ses relations avec les femmes... qui viennent de l'éducation un peu tordue que lui a donné sa mère. Donc il y a un cheminement comme ça, où ça l'amène à réfléchir, et ensuite, à la fin, il se retrouve à être au moment des funérailles, et il y a une confrontation, où là, il y a la catharsis, mais en tout cas, voilà, c'est toute
une catharsis manquée.
Catharsis, oui, complètement foirée, hein, ouais. Parce que c'est pas pour lui la catharsis. Hein.
Ouais. Mais en tout cas, il y a tout un côté introspectif où il se met à réfléchir sur lui, à imaginer la vie qu'il aurait eue avec une autre éducation, les rencontres qu'il aurait pu faire. Mais d'une manière complètement hallucinée, avec des rencontres un petit peu déjantées. Il y a un travail comme ça.
Et puis au final, bah, spoiler du coup, hein, dans ce test-là, tant pis pour vous, la mère, elle est pas morte.
Oui, bah
et du coup, elle va pouvoir en même temps ressortir tous les cadavres du placard, hein.
En fait, pour moi, ça c'est assez intéressant. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est que il y a pas vraiment moyen de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Oui,
totalement.
On est dans un film qui pourrait être totalement imaginé, et c'est un film qui est pour moi de toute façon comme les deux autres films d'Ari Aster. Ari Aster, c'est un réalisateur qui explore la culpabilité. C'est vraiment un réal qui réfléchit à ça. La culpabilité, réelle ou imaginée, par ailleurs, que tu peux ressentir. Il explore beaucoup les dynamiques familiales, mais pas que. Et,
Mais d'une manière, en plus, de plus en plus explicite, parce que Hérédité, le côté familial, on le comprend assez tard, finalement, que le mal absolu vient du tréfonds des origines de la famille. Midsommar, il y a un flash au début, on comprend que c'est passé un truc horrible et puis ça hante tout le film. Là, bon, c'est clair dès le début, la maman.
T'as la famille et t'as aussi le lieu familial.
Ouais.
Parce que dans Hérédité, bah, pendant longtemps, on nous fait croire que c'est peut-être la maison le problème.
Ouais.
Et en fait, non, c'est les gens qui vivent ou qui vivaient dedans.
Ouais.
Dans Midsommar, bon, ouais, on commence par un drame familial et on arrive chez une autre famille qui a d'autres problèmes. Et là, tout le scénario tourne autour de la famille, de la notion de famille. Même le passage où il va voir les hippies qui font du théâtre là. Alors t'as ce qui se joue sur scène qui parle de la famille, t'as ce qu'il s'imagine qui parle également de la famille. Séquence incroyable,
d'ailleurs.
Très long.
Un passage en animation.
Très long, mais c'était bien.
C'est ouais, c'est un, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bon bah il y a pour moi il y a le film il évolue en deux arcs. T'as cet arc donc sur la mère et la culpabilité, et puis un arc sur l'anxiété aussi qui est vraiment très présent. C'est-à-dire que le film c'est un peu pour moi qu'est-ce qui se passerait si à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est le pire scénario que je me fais dans ma tête qui arrive.
Mais ça découle de la mère, parce que l'éducation, elle l'a éduquée dans la peur d'avoir la trouille de tout ce qu'il peut manger.
Ça découle de la mère, mais
peut...
en attendant, il y a quand même une réflexion aussi là-dessus, sur quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que aussi pour moi, on ne peut pas savoir ce qui est vrai ou pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un élément perturbateur qui arrive, c'est vraiment le pire. C'est vraiment le pire truc possible, quoi. C'est vraiment la pire. Bon bah voilà, tu vas acheter de l'eau, les gens rentrent tous chez toi et défoncent ton appartement. Bon, bah, c'est vraiment
temps, c'est le côté.
Tu vas chez le psy t'enregistre et joue les extraits à ta mère, tu vois.
Psy entre guillemets, parce que au bout d'un moment, ça devient un avocat,
non,
l'avocat de la famille. C'est pas le même.
Non.
Je crois que c'était le même.
Non,
c'est pas le même
acteur.
Ça durait 3 heures, j'ai oublié entre temps.
Non, c'est deux personnes différentes et c'est assez. Moi, c'est des séances. Alors, c'est un peu la comédie d'Ari Aster. C'est comme ça que ça a été brandé. Moi, personnellement, j'ai pas énormément ri. Hein. Bon, j'ai ri parce qu'il y a des moments qui sont un peu drôles, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à.
Oui, mais il y a des moments absurdes. Il y a des moments absurdes. C'est-à-dire, c'est pas le langou. C'est pas Hérédité ou Midsommar où t'es en angoisse de A à Z. Là, il y a un côté absurde, il y a un côté surréaliste quand même qui se joue, qui fait que t'as des moments un peu décalés où. Ça t'arrache quand même quelques sourires. Il y a quelques moments tellement outrés. Il y a des moments où c'est censé être horrible, mais c'est tellement trop que ça arrache un petit rire nerveux quand même.
Puis il y a des dialogues qui sont. Puis il y a des moments. Bah, quand il boit sa gélule sans eau. Et qui commence à Google risque gélule machin sans eau, et la première chose qui tombe c'est une notice funéraire d'un mec qui est mort in memoriam machin.
Et je crois genre, il cherche et c'est en mode c'est le comment décès ou hôpital. La réponse c'est qu'est-ce qui se passe si je vois.
Hyper drôle. C'est vraiment ce côté à chaque fois qu'il se passe un truc c'est le pire truc possible. C'est le pire truc possible systématiquement.
Sachant que tout le film tourne autour de Beau et de sa psychologie et de comment il comprend le monde, parce que c'est aussi le côté un peu orange mécanique, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans ce monde-là, à part lui, ils ont l'air de bien le vivre, ça va, ça a l'air d'être plutôt normal, on sait pas trop comment ça marche, parce que comme dans Orange Mécanique, hein, comment ça peut tout ça peut coexister, on sait pas, mais c'est comme ça que le monde nous est présenté. Et surtout il y a une petite séquence qu'on n'a pas parlé au début, c'est que la naissance de Beau, c'est un bébé qui a été lâché.
Ouais,
et donc déjà ils nous mettent déjà le doute est-ce que tout va bien dans sa tête, on sait pas.
Cette séquence qui est la séquence d'ouverture du film, moi elle m'a mis extrêmement mal. Ça m'a fait penser, c'est la première chose auquel j'ai pensé quand la séquence est arrivée, ça m'a fait penser à la séquence de la digestion dans Nope. T'es à l'intérieur de l'alien et tout est rose et tout est flou et t'as des hurlements, et là c'est pareil, c'est à dire que t'es dans un truc rose orangé. De temps en temps, t'as des flashs de lumière,
des sons aussi, t'entends des
bruits d'explosion et des hurlements, mais lointains, étouffés. Et vraiment, pendant un bon 15 secondes, tu te demandes ce qui se passe avant de comprendre ce qui se passe. Et tu te sens pas bien, quoi. C'est-à-dire que tu commences le film déjà dans un état d'anxiété. C'est-à-dire que vraiment, quand même, le but du film, c'est de faire ressentir au spectateur ce que Beau ressent aussi, c'est-à-dire un état constant de terreur. Voilà. Boy's afraid, so are we. Enfin, vraiment.
Et puis le seul moment qui est un peu apaisé, c'est quand la séquence de rêve où il s'imagine avoir une. Enfin, justement, cette séquence de rêve.
C'est
quand il se retrouve à avoir une famille, des enfants, il y a des retrouvailles. Et puis il comprend que vu comme sa mère l'avait angoissé, il a jamais fait de sexe, donc des enfants ils peuvent pas en avoir. Il y a tout qui se disloque.
La séquence où la mère raconte la conception de Beau à Beau. Oh là là.
Ouais, c'est ça aussi un truc que je voulais souligner qui sera peut-être pas partagé par tout le monde en termes de mon interprétation. Alors déjà, je voudrais donner mes crédentiels quand même. Moi, j'ai quand même écrit mon mémoire sur Hereditary. Voilà, c'est mon claim to fame. Donc, je suis assez familière avec Ari Aster dans le sens où ce qui est bien quand t'écris sur des films qui sont sortis un an avant que t'écris dessus, c'est que personne n'a écrit dessus, donc tu peux raconter ce que tu veux. Donc,
personne n'ira vérifier.
J'ai raconté exactement ce que je voulais. Et donc là, je veux aussi dire ce que je veux. Pour moi, c'est un film qui parle pas seulement d'une dynamique toxique, mais aussi d'une dynamique incestuelle. La différence entre l'inceste et l'incestuel, c'est l'inceste, c'est l'acte. Donc l'acte de relation sexuelle entre membres de la famille. Et l'incestuel, c'est ce qui enveloppe, précède ou non l'acte d'inceste, qui est le floutage des limites en fait, entre l'enfant ou la personne, ouais, et son ascendant. Donc il y a quelque chose, tu peux voir ça. En fait, il y a beaucoup de... Moi, depuis que j'ai commencé à lire et à faire des recherches là-dessus, il y a énormément de films et de séries que je revois où je me dis, ah purée...
Cette relation-là, elle est quand même un peu chelou.
Et donc, typiquement, le fait, par exemple, d'être un enfant à qui tes parents te racontent leur relation sexuelle, c'est des choses qui floutent la limite entre ton corps et le corps de tes parents ou le corps de tes frères et sœurs.
Et puis même là, c'est rien du tout, mais le fait, il y a une séquence d'un flashback d'enfance où ils partagent le même lit.
Oui, alors qu'il a une quinzaine d'années.
Non, oui, donc...
Donc, t'as des éléments qui sont subtils, mais qui moi... aussitôt m'ont mis la puce à l'oreille, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille, qui m'ont tout de suite un peu mis la puce à l'oreille sur « Ah, moi, là-dedans, je vois et je ressens l'incestuel. » Et donc, ça change tout à fait pour moi ma façon de voir le film, parce que tu peux quand même un peu voir ça comme un film d'incel. Hein. C'est quand même un peu incel. C'est quand même un peu les femmes.
Félix, il est un peu...
Voilà, les femmes sont des monstres qui castrent les hommes. C'est très 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 freudien.
D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que il y a des moments clés du film qui font sens. C'est-à-dire que bon, déjà il a la peur des femmes parce que il y a sa mère qui lui a. Mais le fait que la mère réapparaisse au moment où il a eu pour la première fois un acte sexuel, c'est
dans le lit de la mère.
Dans le lit de la mère, c'est totalement logique qu'elle vienne le culpabiliser, elle vienne le hanter là. Et puis auparavant, l'histoire qu'elle lui a racontée comme quoi que ton père et toute sa famille sont morts en faisant l'acte, parce que c'est génétique, et le fait que au début, il est rassuré. On croit même que ça peut bien se finir parce qu'il commet l'acte et puis il se rend compte qu'il est toujours vivant.
Il est encore en vie.
Il a terminé. Puis bon, ça tourne mal quand même. Et puis la mère apparaît à ce moment-là. Donc c'est totalement logique par rapport à ce que tu viens de dire.
Ouais, il y a une dynamique qui est pas juste une dynamique, parce que c'est vrai que tu peux te dire encore un mec qui écrit sur sa mère, machin, c'est chiant. Alors c'est pas pour défendre Ari Aster parce que je suis un peu mais pour moi, il y a quelque chose qui va au-delà de ça et qui vraiment touche à quelque chose qui montre son impact, effectivement, sur la durée entière d'une vie où en fait, tout devient... Quand tu grandis avec ces dynamiques, le sol est glissant en permanence.
Ça altère ta perception
et ça altère ton corps et la façon dont tu... Et donc, lui, ça altère son corps, physiquement, puisqu'il a ce problème, n'est-ce pas? Et ça altère la façon... C'est quelqu'un qui est extrêmement lâche, mou. Alors aussi, quelque chose qui est extrêmement intéressant et que je veux souligner, c'est un tout petit moment. Mais quand il est chez le psy, il explique il va aller voir sa mère, le psy lui dit comment vous vous sentez, il dit ça va, j'aime ma mère, blablabla. Et puis à un moment donné, le psy lui dit vous voudriez qu'elle meure, parfois. Et il est là, non, c'est ma mère, je l'aime.
Le psy lui dit non, mais vu ce qu'elle vous a fait, ce serait pas. Vous avez le droit d'avoir ce genre de pensée.
Il dit ouais, c'est normal, parfois on a envie qu'elle meure. Et puis après, il dit vous ressentez de la culpabilité, donc en anglais guilt. Et Joaquin Phoenix, il hésite, il répond pas vraiment. Et là, le psy, sur son carnet, il écrit guilty.
Ouais. Ouais. Ah oui, coupable.
Coupable.
Coupable, oui.
Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a aussi quelque chose... Moi, c'est pour ça aussi que quand je dis que Ari Aster, c'est un réalisateur de la culpabilité, ça me fait aussi penser à l'inceste. Puisque une expérience prévalente de l'inceste, c'est la culpabilité. Parce que tu vis quelque chose dont tu es victime, mais dont tu es aussi coupable. Puisque si tu parles... tu ruines des relations qui te sont chères, en fait. Et comme il le dit lui-même, en fait, c'est des choses qui sont tellement difficiles parce que ça parle d'abus, mais ça parle aussi d'amour. Et ça sert à rien de dire non, c'est pas l'amour, c'est des jeux de pouvoir. Oui, mais il y a de l'amour aussi. Et c'est ça qui fait que c'est aussi compliqué. Et c'est ça qui fait que c'est aussi ancré dans la culpabilité. Et que là, Beau, c'est un personnage qui est rongé de culpabilité en permanence par rapport à tout. Et c'est pour ça qu'il arrive à rien faire, c'est-à-dire qu'il est, il est chez ces gens qui l'ont kidnappé, en fait. Hein, voilà, c'est, et il passe son temps à, essayer, à dire pardon, pardon, je dors dans le canapé. C'est pas... Mais en fait, il n'arrive jamais à faire les choses bien, c'est-à-dire qu'il veut rendre. La petite, il lui a pris sa chambre, on lui a pris sa chambre pour mettre beau à l'intérieur, il se sent hyper mal, donc il veut lui rendre sa chambre, donc il s'endort dans le canapé, puis en fait il se fait engueuler parce qu'il s'endort dans le canapé, parce que c'est pas sa place et que du coup il a pris le lit.
Oui, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu vas te sentir
voilà,
coupable.
Quoi que tu fasses, si t'essayes de te défendre, t'es coupable, si t'essayes de t'écraser, t'es coupable, parce que tu te sens coupable, et donc il arrive pas à gagner en fait, jamais. Et il est toujours rattrapé par cette horreur qui continue de lui arriver, peu importe où il va, il est toujours poursuivi par ce truc, et puis ça se termine avec cette confrontation avec Patty Lupone qui alors arrive dans le film en toute voile dehors. Et alors moi j'étais trop contente parce qu'il y a une photo quand il arrive à l'enterrement, donc le cadavre n'a pas de tête, n'est-ce pas, et tu vois une photo et je me suis dit putain c'est Patty Lupone, c'est fou, elle fait un caméo photo, tu vois. Et du coup quand elle ressurgit, je me suis dit ah trop bien, parce que quelle actrice. Et alors vraiment elle y va,
elle te bouffe les selles,
elle explose le film.
Mais là t'as vraiment le truc, le beau jeu par Joaquin Phoenix est écrasé en face de la vraiment, présence de la mère. Mais du coup ce que tu disais là sur la culpabilité et tout,
et puis il est jugé.
Du coup oui c'est ça, c'est que à la fin il y a véritablement un jugement de beau qui n'est pas du tout en sa faveur. Hein. Et en fait, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que de toute façon, dans la relation, comme tu disais, il est coupable.
Ouais.
Quoi qu'il se passe, de toute façon, il est coupable. Il a déjà été jugé par sa mère, qui est l'instance supérieure, voilà, qui dit l'aimer, mais c'est toujours pareil.
Qu'il aime,
hein.
Probablement, oui. Mais c'est même pas la question, c'est que. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant.
Et puis
parce
tout
que...
ce qu'il pourrait dire n'a pas lieu d'être, parce qu'à un moment donné, il y a dans ce mini-procès, il y a quand même
un
défenseur.
Avocat, ouais.
Puis, alors, bon, c'est
et puis le défenseur, il...
Et puis il n'a pas de micro, ça c'est hyper intéressant aussi.
Ouais.
C'est que cet avocat.
Il n'a pas le droit à la parole. Ouais.
Le juge, donc, qui est le docteur Cohen, qui s'appelle docteur Cohen, alors que c'est un avocat, il a un énorme. Sa voix résonne dans tous les coins et tout ça. Et l'avocat, il n'a pas de micro, il n'est pas amplifié. Donc il dit non, mais il avait peur. Et c'est. Et c'est une scène, encore une fois, on ne sait pas trop. Elle arrive, tu te dis, ah, il y a encore cet absurdisme d'une scène. Voilà. Moi, je me suis presque attendue à voir, parce que ça se passe sur l'eau, je me suis attendue à voir surgir un kraken, presque, parce qu'il y a des espèces de grandes entrées.
Oui, oui, oui.
Tu t'attends vraiment à voir un truc sortir. Et en fait, non, ça se termine d'une manière très triviale.
Je repense à un truc, d'ailleurs, dans ce que tu dis sur la culpabilité, on est quasiment aiguillé très très tôt dans le film. Sur ce sujet-là, c'est à un moment donné, quand il est chez ces espèces de gens bizarres qui l'ont kidnappé, il a le droit de passer un coup de fil, donc il va passer un coup de fil, il va tomber sur le docteur Cohen, c'est ça.
Ouais.
Et en fait, la conversation, donc il explique qu'il a eu un accident, c'est pour ça qu'il a pas pu venir à l'enterrement.
Putain.
Et l'autre retourne complètement la discussion pour le culpabiliser de pas être là, en fait. Mais alors que il a des raisons valables et la manière dont, ainsi, dès le départ, hein, c'est-à-dire, dès le dialogue, il y a une agressivité, quelque chose pour le. Comme si ça avait toujours été l'espèce de vilain petit canard de la famille, et que s'il n'est pas là, forcément, c'est parce qu'il ne veut pas venir, ou c'est de sa faute. Enfin, il y a quelque chose de.
Et les trucs en mode. Tout le monde a essayé de te prévenir, qu'est-ce que tu fais,
etc. Tout le monde est là, et puis.
Et en plus, en lui répétant ce qui est arrivé. Et en plus, tu veux que je te redise que ta mère, elle a eu la tête écrasée, machin, de manière super.
Pour l'instant, elle est pas.
C'est un traumatisme quand même.
Et c'est en mode, pour l'instant, elle n'est pas enterrée, tu sais ce que c'est, quelqu'un qui n'est pas enterré, elle est en train d'être humiliée.
Bon après on comprend pourquoi à la fin du film pourquoi il a ce ton, mais sur le coup on se dit je viens de perdre sa mère, prends un peu de gants, qu'est-ce qui se passe, on est où là.
Puis aussi à voir que toute cette mort en fait c'est aussi un test de plus. Tout ça c'est des tests
bien
qu'il n'arrive pas à passer,
bien sûr.
Et tous les tests il les rate. Et il a beau essayer faire de son mieux malgré effectivement tu sens bien qu'il a pas envie, effectivement il a pas envie d'y aller à cet enterrement, il a pas envie d'aller voir sa mère, il a pas envie de... Mais en fait entre ce qu'on a envie de faire en tant qu'enfant et puis ce qu'on fait en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, il y a énormément de choses que tu fais pour tes parents que t'as pas envie
d'ailleurs,
de faire.
Mais d'ailleurs
encore moins de marge en tant qu'enfant et lui ils se sont toujours enfants.
Et lui il est toujours enfant.
Et d'ailleurs un détail,
il parle comme un enfant, il a une.
Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la maison de la mère. On comprend que voilà, c'est une entrepreneuse, elle a plein de thunes et tout. Et dans les photos de sa réussite, il y a le bâtiment dans lequel Beau habite. C'est-à-dire que même chez lui, en fait, il vit toujours chez sa mère.
Et il y a aussi une photo assez... Quand il descend les escaliers, t'as une galerie de photos avec des photos de lui. Et parmi les photos de lui, il y a une photo de caméra de surveillance de lui qui reçoit l'appel. Qui annonce que sa mère est morte. Donc il est en permanent. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand tu rentres...
D'ailleurs, caméra de surveillance, on en a une avant dans le film.
Oui, bah dans la... En fait, tu te rends compte que la maison, de toute façon, il est scruté.
Et de toute façon, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des moments où... des moments un peu hallucinés du film, on a des flashs de tout ce qui va arriver. À un moment donné, il y a une espèce de montage, et puis on se rend compte que tout
c'est quand on regarde la télé.
Quand tu regardes la télé, ça se termine sur
et
la...
Et finalement, on a en vrac plein de moments
qui
vont arriver beaucoup
plus tard. Et ça se termine au tribunal.
Et d'ailleurs, même quand il s'échappe de cette maison, en fait, il est toujours poursuivi, parce qu'il a un truc GPS...
Denis Ménochet
qui va encore casser des bouches. Hein.
Oui, c'est pas un rôle parlant. Ouais.
En tout cas, c'est ce côté toujours se sentir toujours regardé, toujours surveillé, toujours jugé. Il y a toujours cet aspect-là.
Sans être scruté et sans être effectivement jugé au sens légal du terme, quoi. Au sens, il est mis en jugement.
Légal et aussi symbolique. Hein. T'as une un espèce de... Parce que la mère est une espèce de personnage un peu divin dans sa vie qui passe son temps à le rabaisser, à lui mettre des tartes, tu vois. Fin...
C'est... Moi, je trouve que... Alors, j'ai vu pas mal de... Bon, bah, c'est un film qui est très polarisant et qui va faire beaucoup de... Je pense qu'il va inciter beaucoup d'avis contraires. Et moi, j'y suis allée un peu nerveuse à cause de la longueur du film, parce que 3 heures, c'est quand même extrêmement...
C'est un peu long, oui.
Et en fait, c'est passé assez vite, parce qu'il y a ces espèces de chapitres, et puis il se passe quand même énormément de choses.
Je trouve que ça passe plus vite que ces deux premiers, c'est pas pour vous.
Bah, Midsommar, moi, je l'ai trouvé plus long. Ouais.
Ouais.
Oui. Sans dire que c'est un défaut, mais je trouve que là, malgré les 3 heures, je trouve qu'il y a trouvé une espèce de dynamisme dans la narration, de fluidité, alors que c'était un des trucs qui pouvait faire peur avant de voir le film, effectivement. Moi, j'avais vraiment peur que ça parte dans des tripes arty... avant des moments un petit peu bizarroïdes pour être bizarre pour le plaisir de... Ouais, mais je trouve que ça coule, quoi. C'est vraiment, ça coule, il n'y a pas de...
Non, mais elle faisait référence au Monstre Hobbit.
Oui.
Ouais, bah moi j'ai pas envie d'en parler. Je trouve que c'est bien, on a fait 100, parce que toutes les critiques parlent que de ça, et alors que c'est vraiment le moment le moins intéressant du film.
Oui.
Et les gens font que parler de ça. Moi j'ai lu plusieurs critiques et j'ai entendu plusieurs critiques vidéo où ils parlent que de ce truc, et franchement, quel intérêt? Intérêt zéro, quoi.
Alors que c'est vraiment 5 secondes dans le film.
Ouais, 5 secondes, tout le reste du film est infiniment plus intéressant. On aurait vraiment pu faire 100. Voilà, moi c'est ma crise. J'espère que
c'est juste pour montrer les cadavres dans le placard de manière littérale, mais c'est pas. Oui, c'est pas.
Ouais, mais bon, voilà. Enfin, bon,
on avait déjà compris qu'il en avait des cadavres.
Oui, c'est ça. C'était pas la peine de faire ça comme ça. Et puis,
sachant qu'en vrai, l'élément plus intéressant dans le grenier, c'est pas le monstre Hobbit, c'est le frère.
Ouais.
Le frère qui a disparu de sa vie parce que la mère n'en voulait plus.
Ouais.
Qui est absolument horrible. Parce que...
Bah, alors, ça peut être le frère, mais ça peut être lui aussi.
Ou ça peut être lui aussi.
Moi, j'ai plutôt interprété ça comme étant lui. C'est-à-dire que c'est le seul moment où il a essayé de se rebeller. Et cette partie-là de lui, la partie de lui qui était prêt à se rebeller et qui pouvait se défendre, a été enfermée et mise au placard.
Sachant que de toute façon, ça c'est dans le grenier. Le grenier, c'est comme une cave dans une maison, hein, de manière symbolique. Bah, c'est le... Les tréfonds de ton esprit, c'est l'inconscient, voilà. C'est les trucs refoulés.
C'est là qu'il a été mis, et c'est là qu'il a été affamé et privé de lumière. Et c'est... Alors, au niveau thématique, moi, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient « Oui, c'est un bordel, tu vois qu'il n'a pas du tout été... on lui a donné une liberté totale, et bah, c'était pas une bonne idée. » Bah, moi, je trouve que si, c'était une bonne idée. C'est un film. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des thématiques très claires, et qui, pour moi, parce que je vois cette dimension sur l'inceste et l'incestuel, ne sont pas des thématiques d'incel sexiste qui blâme tout sur la mère. Pour moi, c'est vraiment un film, c'est pas un film forcément sur la mère, même si c'est un film sur la mère est là, c'est la mère, mais c'est un film, pour moi, sur la culpabilité liée à grandir dans ses rapports incestuels, en fait. Et l'anxiété qui en découle, c'est vraiment un film incroyable sur l'anxiété. Et alors, Joaquin Phoenix,
Pourtant, il a déjà fait ce genre de numéro.
Il a déjà fait ce genre de
numéro. Mais ça marche encore, il réussit encore à nous avoir.
Il nous a, et puis alors la façon dont il parle, cette espèce de prononciation qu'il a un peu aiguë là, dans ce ton un peu enfantin. Enfin bon, c'est vraiment un personnage pathétique.
Ça, ça rajoute le côté de l'enfant qui a jamais grandi. Hein.
C'est ça, c'est ça. Et puis il est tout le temps en pyjama. Enfin, il a, et puis même quand il est pas en pyjama, il a ses fringues un peu trop grandes, cette espèce de grand polo. Enfin, c'est vraiment
toujours
un gosse.
Peu, toujours un peu voûté.
Ouais, c'est vraiment un gosse qui a pas grandi. Et c'est un film qui est vraiment triste et puis qui se finit d'une manière assez tragique. Mmh. Enfin. Bon, moi, j'ai adoré, c'était super, c'était vraiment...
Après, peut-être... Alors, c'est pas un défaut, mais c'est... Vu comme on est parti sur une suite de tableaux dans le film, bon, effectivement, il y a une fin, on a l'impression que ça pourrait reprendre, et que ça pourrait continuer infiniment comme ça. Oui. Mais, il s'est dit, ça fait 3 heures, donc on va finir là-dessus, mais... Non, voilà, c'est peut-être le... c'est pas une vraie conclusion, ça pourrait
encore
se réveiller ailleurs, et puis que ça reparte...
Ouais. Je trouve ça marrant, la toute fin du film, c'est-à-dire, à plus beau... Et t'as les spectateurs dans le film qui se barrent, et c'est vraiment genre c'est bon, on peut y aller. C'est fini.
Mais même, ouais,
t'es dans la salle, t'attends, tu dis peut-être s'il va se passer
un. Bah non, c'est juste qu'il part, la salle elle est vide, tu vois.
C'est intéressant parce qu'on se retrouve vraiment quand le dernier plan du film, c'est vraiment nous en face des spectateurs.
C'est ça.
C'est la salle en face de la salle, quoi.
C'est ça.
Donc on a assisté à son procès aussi. Et puis bah du coup voilà.
Maintenant vous pouvez y aller, c'est bon.
Vous pouvez y aller, quoi.
C'est fini.
Et ça se termine d'une manière un peu. Presque anticlimatique quand on... anticlimactique. C'est moi je me faisais un peu de soucis, j'avais vu beaucoup de critiques, je me suis dit je vais avoir du mal à défendre Ari Aster sur celui-là, ça va être compliqué, je vais être seule contre tous. Et je suis prête à l'être, s'il faut que je sois je le serai déjà là. Vous êtes d'accord avec moi, donc
c'est
assez bizarre parce que j'ai presque envie de dire que c'est son plus accessible. C'est bizarre de dire ça, parce qu'il dure 3 heures et machin et tout, mais en vrai, je trouve ça beaucoup plus accessible que Hérédité.
Ça fait déjà un bon brassage, bon résumé des thèmes qu'il avait déjà mis dans Hérédité
et
Midsommar.
C'est très abouti. En fait, tu sens que c'est un film qui est très personnel.
Et en plus,
il s'est enlevé les carcans les carcans du cinéma d'horreur ou de.
Ouais.
Là, c'est vraiment, on est vraiment dans sa tête. Quoi.
Ouais. Mais ça fait. Putain, moi j'ai eu peur. Hein. Ouais. J'ai eu peur. Moi, il y a eu des scènes où j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. J'ai pas envie d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment des scènes.
Mais que je veux dire, c'est que quand on parlait tout à l'heure de Dans ma peau et la différence entre Dans ma peau et Grave. C'est-à-dire que t'en as un où t'as des portes d'entrée avec du mystère, des situations, une mise en scène qui dit où tu viens pour un film fantastique et t'as quand même un contour qui te ramène à ça. Et en tout cas dans Midsommar, déjà un petit peu moins dans Midsommar, Hérédité c'est vraiment ça, et après on part sur autre chose.
Ouais.
Midsommar un petit peu moins, mais c'est quand même là parce qu'on pense à, comment ça s'appelle, The Wicker Man, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment le lâcher-prise.
On n'a même pas de genre, on peut pas qualifier ça de comédie, moi je suis pas d'accord du tout.
Non.
On rigole, mais c'est pas une comédie.
On rigole au cinquième degré. Hein, ouais.
C'est pour moi, c'est vraiment une odyssée, quoi. C'est un film de.
Parce que je crois que ce film, il a un côté. Ça aurait pu être le premier film d'Ari Aster. Bon, ça aurait pas eu cette tronche parce que c'est extrêmement maîtrisé. C'est pas.
Et il aurait pas eu ces moyens là non plus.
Aussi. Mais en même temps, je trouvais. Enfin, quelle idée de commencer le film par cette séquence. Complètement folle. C'est vraiment ce truc là qui t'attrape et hop,
ça te balance dans le film
et t'es dans le film et c'est incroyable.
Et puis tu comprends tout de suite les dynamiques entre les deux personnages en quelques secondes de cet accouchement, quoi. Et puis il y a quand même un callback à la mère d'Hereditary, puisqu'il y a une deuxième séquence de hurlements un peu cathartiques de la part d'une mère où tu retrouves un peu ces mêmes thématiques de en fait tout ce que je peux pas dire je le dis maintenant, et en même temps tout ce qui s'est passé avant est tellement différent de ce qui se passe dans Hereditary, même au niveau des, avec toujours ce fil conducteur de la culpabilité, que ça a un impact qui est totalement différent. Tu le ressens vraiment
et puis,
de la manière différente.
Tu retrouves le côté parce que quand il arrive dans la maison au final, ça va, bon, il y a quelques trucs bizarres et tout, mais c'est vraiment l'arrivée et la présence de la mère qui rend le truc absolument horrible.
Horrifique.
D'ailleurs, je repense à une autre scène quand il est chez les gens qui l'ont accueilli, les gens bizarres. Il y a le côté culpabilité par la mère, on le ressent aussi de manière bien insidieuse. Si vous vous souvenez, la scène où il se retrouve à avoir, il y a l'adolescente qui a bu de la peinture et puis qui meurt.
Ah oui.
Et puis donc il y a la mère qui arrive. Et puis finalement, il y a le côté je me suis occupé de toi, mais regarde ce que tu me fais. Il y a ce côté-là, parce qu'elle lui dit mais regardez, je savais que vous allez vous retourner contre moi parce que, parce que depuis le début, elle est toute gentille avec lui, elle est aux petits soins. Et finalement, il l'a trahi, entre guillemets, avec ça. Et puis, il y a cette culpabilité, ce rapport à la mère. Là, c'est pas sa mère, mais c'est l'équivalent dans ce contexte-là. Et il ressent de nouveau cette
culpabilité. Et pareil, il y a un truc dans cette famille aussi, dans les, le dynamisme
aussi,
entre le... Bah oui, de culpabilité. Mais parce que tu vois, genre, on sent aussi qu'il y a un truc bizarre avec le père. Et la mère semble être plus une alliée que les autres. La fille semble avoir des informations qu'on n'a pas.
Ouais. Sur les tests, mais ça c'est pareil, à un moment donné elle lui dit t'es en train de rater le test.
Ouais.
Et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'encore une fois tu te retrouves dans ces tests que tu dois faire, tu sais pas lesquels c'est, tu sais que tu rates mais tu sais même pas ce qui est attendu de toi en fait, mais sais que tu rates. Et donc il y a plusieurs moments comme ça dans ces séquences où ils sont, où il est chez cette famille.
Parce qu'en plus il est là pour, en fait, pour remplacer le frère.
Un peu, ouais.
C'est horrible.
Enfin, de toute façon, c'est vrai que c'est...
Parce que tu vois, genre, t'as tout le côté où t'as la fille qui l'emmène en balade avec sa copine, machin. Et
tu dis ça, comme si c'était sympa.
Comme si c'était sympa.
En balade, voilà. Alors que c'est une séquence absolument affreuse.
Oui, oui, oui. Mais où t'as le truc, ouais, genre, au roulant joint, elle fait tiens, fume sur le joint. Et l'autre, il fait bah non, j'ai pas envie et tout. Et c'est en mode non, mais si tu dois être mon frère, tu vas fumer sur le joint. Tu vois. Et après, bon, ça part en mode chantage. Oui, on va dire que t'as essayé de nous violer et tout. Ok, et au final ils prennent la bagnole juste pour faire des tours, mais juste du pâté de maison où il y a la maison, c'est infernal.
Et c'est assez intéressant parce que à chaque fois que t'arrives dans un lieu, tu te dis ah c'est là que le film. Parce que moi quand t'arrives dans le deuxième lieu donc de ce kidnapping, je me suis dit ah ça va partir un peu à la misérie, un peu dans un un truc de séquestration. Et en fait non, c'est très facile de partir.
Oui, oui.
Donc il est pas piégé à aucun moment en fait. Il n'est pas vraiment piégé, c'est lui.
Comme je disais, c'est lui qui se met des obstacles parce qu'il veut pas rentrer. Donc il se pose des obstacles.
Et en même temps, tu vois, genre, quand tu vois cette maison dans le film, vu la séquence que tu as eue avant et le monde extérieur qui t'est montré,
tu te dis,
il est mieux là que dehors.
C'est sûr.
Et finalement, il sort et il arrive dans un endroit qui est mieux.
Ouais.
Enfin, c'est très particulier. Ouais, ouais.
Enfin, bon. On va peut-être...
Mais c'était vachement bien.
Mais c'était vachement bien, on me le recommande chaudement, c'était super.
Je suis sûr qu'il y a des masters qui seront écrits dessus aussi.
C'était... moi ça me donne envie de retourner à la fac. C'était vraiment bravo.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.